Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous, RFI, à l'heure des femmes en ce 8 mars, les inégalités entre les sexes ne se résorbent pas. Les femmes gagnent en moyenne 23% de moins que les hommes. Au rythme actuel, il faudra 70 ans pour résorber les écarts, accuse l'Organisation internationale du travail. Et on voit cela dans quelques minutes avec Julien Méchaussy. La question est aussi une préoccupation pour l'Union pour la Méditerranée, l'UPM, qui développe des projets concrets pour que les jeunes femmes du Maghreb deviennent plus autonomes. Car comme le souligne la diplomate Delphine Borion, secrétaire générale adjointe de l'UPM, il reste beaucoup de travail à faire, et d'abord en politique.
La participation des femmes dans la vie politique est faible partout dans le monde. Quand l'on compare aussi les deux rives, nous voyons que la question de l'égalité entre les femmes et les hommes est loin d'être achevée, et cela partout dans le monde. Il y a eu des progrès, et ça il faut le souligner, en matière de santé, en matière d'éducation, en matière aussi de processus juridiques et constitutionnels. L'égalité est de plus en plus reconnue dans les textes. Mais la vraie question, c'est les actes. Et la réalité sur le terrain, la violence faite aux femmes, les discriminations, la permanence des stéréotypes et des préjugés, et puis cette très faible participation des femmes dans la vie économique. En Europe, par exemple, c'est une participation de 65% dans la vie économique, alors que dans le sud de la Méditerranée, c'est 25%.
Cela passe par un changement de mentalité, hein, notamment il faut aussi accélérer l'accès à l'école, tout particulièrement à l'enseignement supérieur, mais aussi au monde du travail.
Bon, il y a encore beaucoup d'insuffisances concernant l'éducation des filles. Mais quand on voit par exemple les chiffres à l'université, le nombre de filles est souvent supérieur même à celui des jeunes hommes. Mais le problème, c'est qu'on les perd ensuite, elles ne se retrouvent pas dans le marché du travail. On sait bien que les femmes travaillent aussi beaucoup, mais souvent dans un cadre informel, au service de membres de leur famille. Donc ce n'est pas un travail qui est reconnu formellement, et donc elles ne peuvent pas bénéficier de protection sociale et de toutes les garanties liées à un travail formel.
Vous soulignez également l'implication des pays nordiques dans cette coopération, notamment de la Suède ou encore de la Norvège.
Oui, absolument. C'est très intéressant de voir que la Norvège, ce pays qui n'est pourtant pas pays membre de l'Union pour la Méditerranée, nous a soutenus dès le départ pour nous aider à soutenir des projets axés sur l'entrepreneuriat féminin ou un autre projet pour donner des compétences de base à des jeunes filles qui sont sorties du milieu scolaire, qui n'ont pas d'emploi, et donc pour leur permettre d'intégrer le marché du travail. Et la Suède également vient de conclure avec nous un accord qui porte sur 6,5 millions d'euros pour promouvoir des initiatives et appuyer notre action, notamment dans le domaine du genre, mais également dans le domaine de l'eau et de l'énergie.
Vous avez des exemples très concrets de jeunes femmes qui ont réussi à porter avec succès leur projet grâce à l'UPM ?
Je vous donne deux exemples. Soukena Elbouj a fait un stage grâce à nous auprès de la Banque européenne d'investissement. Et ensuite, est tout de suite revenue chez elle et pour construire une école pour donner leur chance à des jeunes filles dans un milieu rural au Maroc, jeunes filles qui n'avaient pas ces opportunités. Donc elle a voulu justement à son tour transmettre et créer cette école, je pense que tout à fait exemplaire. Un autre exemple, c'est Fatima Zahra, qui a créé le Biodôme du Maroc. Elle a construit donc une entreprise qui produit des installations de méthanisation agricole. Donc c'est une solution éco-innovante pour aider les agriculteurs à produire du biogaz et de l'engrais dans leurs fermes, donc réduire également les gaz à effet de serre. On voit là aussi ce rôle des femmes comme vraiment acteurs de changement, et c'est des femmes qui sont des solutions par rapport à l'ensemble des défis que rencontre notre région.
Delphine Borion, secrétaire générale adjointe de l'Union pour la Méditerranée. Et si l'accession des femmes au monde du travail est encore difficile au Maghreb, les pays européens sont eux aussi à la traîne, que ce soit dans les écarts de rémunération, les femmes gagnent en moyenne 16% de moins que les hommes, ou la promotion à des postes de direction. Le monde des médias ne fait d'ailleurs pas figure d'exemple, malgré leur présence très forte. Seul un dirigeant sur cinq y est une femme. En Allemagne, un programme destiné aux cadres féminins souhaite donc changer la donne. Julien Méchaussy nous appelle de Berlin.
Plus de femmes dans les fauteuils de direction. L'objectif est clairement annoncé par Nadia Radojevic et l'Institut de recherche sur les médias qu'il dirige, l'Erich Pommer Institute. Avec ce constat, plus on grimpe les étages de la hiérarchie, plus les femmes se font rares. D'après Nadia Radojevic, les raisons sont les mêmes que dans d'autres domaines professionnels. Les femmes décident de candidater à un poste de dirigeant uniquement si elles sont sûres à 100% d'en avoir les capacités, quand les hommes n'hésitent pas à se placer même s'ils ne disposent que de 70% des compétences requises. Les descriptions des postes à responsabilité jouent également un rôle important. L'exigence de travailler à plein temps, les heures supplémentaires, le manque de flexibilité font reculer les femmes qui assument encore la plus grande partie des obligations familiales. Sparks, c'est le nom du tout premier programme adapté aux médias qui souhaite bousculer cette réalité et promouvoir les femmes au poste de décision. Première étape, une série d'ateliers qui réunira dès le mois de juin des femmes du monde des médias avec un travail sur les outils de direction. Le tout associé ensuite, et c'est là la grande nouveauté, aux entreprises. Les responsables de ressources humaines seront ainsi formés à la parité et l'égalité hommes-femmes. Des entreprises qui ont tout à y gagner selon de nombreuses études. Plus la part des femmes au poste de direction est importante et plus l'entreprise est performante.
Bonjour Eve Minot.
Bonjour Catherine.
Alors on pourrait croire qu'en Europe, les jeunes femmes sont bien au fait des combats menés en faveur des droits des femmes depuis plus d'un siècle maintenant, si on part des suffragettes britanniques. Entre antiféminisme, récupération marketing et retour surprise des vieux combats de leur grand-mère dans les années 70, le terme n'a jamais été autant employé qu'aujourd'hui.
Oui, le terme même de féminisme continue de faire polémique aujourd'hui en 2017. Il suffit pour vous le prouver, de lancer le sujet autour de vous et de récolter les opinions pour vous rendre compte qu'on est encore loin d'une adhésion totale de toutes les jeunes femmes à ce terme, censé pourtant désigner la quête d'égalité réelle entre les hommes et les femmes dans la société.
En même temps, vous le disiez, on n'a jamais vu autant de slogans féministes.
Que cela soit dans les concerts de Beyoncé ou même sur les podiums des défilés de haute couture, le féminisme s'affiche clairement, au moins comme argument marketing. Certaines jeunes célébrités européennes revendiquent même être féministes, comme par exemple la jeune actrice anglaise Emma Watson, qui s'est récemment vue reprocher d'avoir laissé suggérer la courbe de ses seins dans un magazine par une photo que quelques internautes ont jugée incohérente avec ses prises de position féministes, comme quoi Catherine, porter un combat féministe et accepter de jouer avec son image semble encore poser problème.
Alors certains et certaines disent même que le féminisme n'est plus qu'un débat et qu'en Europe, les femmes n'auraient plus rien à revendiquer.
Oui, l'argument évoqué est que le combat des femmes va aujourd'hui se nicher dans des détails. Le droit ou pas de porter des talons au travail, l'obligation de se maquiller dans certaines professions. Et même si ces toutes petites lutte semble parfois anecdotique, elles permettent, petit à petit, de faire évoluer les mentalités, de faire prendre conscience à la société que les femmes sont encore aujourd'hui tenues d'observer certaines manières de s'habiller, de paraître. Mais bonne nouvelle, grâce aux réseaux sociaux, aujourd'hui la moindre expression de la misogynie ordinaire, comme on dit, peut faire le tour du monde et chaque femme peut témoigner. C'est ainsi que de nouveaux termes ont émergé dans le débat public récemment, comme par exemple le man-interrupting, le fait pour un homme de couper la parole à une femme. Dans le quotidien Le Monde, on apprenait par exemple le week-end dernier qu'un homme coupe en moyenne 3 fois plus la parole à une femme qu'à un autre homme, des chiffres vérifiés lors des débats télévisés, notamment en France, entre candidats aux primaires de la droite et de la gauche en vue de la présidentielle.
Eve, au-delà de ces combats quotidiens que vous soulignez, il existe encore aujourd'hui des luttes fondamentales à mener.
Oui, je pourrais par exemple vous parler de violences conjugales ou sexuelles, ou encore de traite des femmes, de mariage forcé ou d'excision, des pratiques qui concernent encore aujourd'hui les Européennes, pour certaines en tout cas, mais je m'arrêterai sur une statistique moins dramatique, bien que tout à fait inacceptable, l'écart de salaire entre les hommes et les femmes. Comme l'a évoqué tout à l'heure Julien Michaussé, à poste égal et formation égale, les hommes continuent d'être mieux rémunérés que leurs collègues femmes en Europe, 16% en moyenne dans l'Union européenne. Si la France se situe à peu près dans la moyenne, les mauvais élèves sont allés chercher du côté de l'Estonie, de l'Autriche, de la République tchèque, mais aussi de l'Allemagne, avec un écart de salaire au-delà de 20%. Et au contraire, en tête du classement des pays les plus égalitaires ou les plus égalitaristes en la matière, on retrouve la Slovénie, Malte, l'Italie et la Pologne avec moins de 8% d'écart.
Autre sujet crucial, le corps des femmes et le pouvoir d'en disposer librement. Le sujet est régulièrement remis en question. par les hommes.
Oui, ces dernières années, les débats autour de l'interruption volontaire de grossesse ont brusquement refait surface dans certains pays d'Europe. C'est le cas notamment en Espagne, mais aussi surtout en Pologne. En octobre dernier, la chambre basse du Parlement polonais a rejeté de justesse l'interdiction totale d'avorter après de nombreuses manifestations dans tout le pays. Loin d'être anodin, ces épisodes de remise en question du droit à l'avortement sont à prendre très au sérieux. Aux États-Unis également, l'arrivée de Donald Trump au pouvoir a précipité les premières mesures anti-avortement, ce qui prouve encore que ces droits qui semblaient acquis peuvent à tout moment ressurgir dans le débat. Comme disait Simone de Beauvoir, si l'on vit assez longtemps, on voit que toute victoire se change un jour en défaite.
En fait, Ève, on pourrait dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de féminisme, mais bien des féminismes qui prennent différentes formes et sont portés par différentes femmes.
Ou d'hommes d'ailleurs, hein, à l'image de Barack Obama, et ce n'est pas le seul. Hein, l'ancien président des États-Unis qui a plusieurs fois affirmé lors de ses discours être féministe. C'est d'ailleurs aux États-Unis qu'une nouvelle branche du féminisme a vu le jour ces dernières années. Il s'agit de l'intersectionnalité. C'est le fait de prendre en compte les différences entre les femmes. Ce prisme permet ainsi d'offrir plus de visibilité aux femmes qui subissent par exemple à la fois le sexisme et le racisme. De nouvelles voix et de nouvelles femmes européennes se reconnaissent ainsi dans ces nouvelles formes de lutte contre les discriminations, malheureusement toujours aussi réelles, même si l'Europe sur le sujet fait plutôt figure de bonne élève à l'échelle mondiale.
Merci Ève Minot, à la semaine prochaine. Le dernier rapport de l'ONG Transparency International, il est accablant pour la Macédoine. Le pays a chuté à la dernière place du classement européen sur la corruption. Simon Rico.
Rien de nouveau sous les cieux macédoniens. C'est donc avec fatalisme que les gens d'ici ont appris le triste classement de Transparency International. Il faut dire que le tableau que dresse l'ONG, spécialisée dans la lutte anticorruption, est des plus inquiétants. En à peine quelques années, la Macédoine a chuté de la 37e à la 90e place du classement qui évalue comment les citoyens perçoivent le niveau de corruption dans leurs pays respectifs. En Europe, c'est le plus mauvais classement et à l'échelle mondiale, la Macédoine se place au même niveau que la Colombie, l'Indonésie ou le Libéria. Parmi les professions considérées comme les plus corrompues, on trouve sans surprise les juges, les ministres, les dirigeants de partis et les députés. Les trois quarts des personnes interrogées estiment que l'enrichissement personnel soudain des gens au pouvoir est le produit d'une corruption généralisée et 70% dénoncent le manque de contrôle administratif et l'inefficacité de la justice. Cette très rapide dégradation de la perception de la probité s'explique notamment par le climat délétère qui sévit en Macédoine. Le Vemero Dopomenoe, le parti nationaliste conservateur, engagé dans une dangereuse dérive autoritaire, a pris le contrôle de toutes les institutions et de toutes les grandes entreprises. En 2015, le scandale révélé par l'opposition, des écoutes téléphoniques impliquant de nombreux élus et hauts fonctionnaires, a encore exacerbé le sentiment de défiance des Macédoniens. D'autant que jusqu'à présent, aucune affaire n'a été jugée. En 2014, par exemple, sur le millier de cas de corruption qui ont été traités par la justice, seuls 207 ont été menés jusqu'à leur terme, soit à peine 1 sur 5. Ce sentiment d'impunité encourage la corruption, comme le déplore la société civile macédonienne. Enfin, ajoutons que la faiblesse de la presse indépendante ne contribue pas à la révélation des affaires.
D'ici à l'automne, les Lituaniens devraient avoir accueilli plus d'un millier de réfugiés, tout cela dans le cadre du programme européen de relocalisation. Seuls 254 sont arrivés à ce jour. La Lituanie se situe certes dans la moyenne européenne, sauf que ces réfugiés ne restent pas. Près des deux tiers ont déjà quitté le pays et Marielle Vituro va nous en expliquer la raison.
Le 10 février dernier, Ignas Erugile voit pour la dernière fois Jenny Zreik, une jeune Syrienne. La rencontre se déroule dans un restaurant de la ville de Jonava, quelques kilomètres du centre d'intégration. Ce jeune couple de Lituaniens s'occupe de Jenny, de ses parents et de sa jeune sœur depuis leur arrivée début décembre en Lituanie. Ils ont passé Noël tous ensemble, un cadeau inespéré pour cette famille chrétienne qui a fui Alep, séjourné longtemps en Grèce, avant de s'envoler pour la Lituanie dans le cadre du programme de relocalisation de l'Union européenne. Mais dans quelques jours, la famille Zrek va partir pour l'Allemagne, comme 148 réfugiés présents en Lituanie l'ont fait avant elle. Pour Jenny, qui suivait des études de biologie en Syrie et rêve de devenir hématologue, le centre d'intégration de Rukla était une prison.
We are in Rukla like...
À Rukla, c'est comme si nous étions en prison. Il n'y a vraiment rien à faire et on ne voit personne. C'est sûr, on apprend le lituanien. Mais tout ici est vraiment ennuyeux. En Grèce, c'était impossible de trouver du travail. C'est pareil ici. Nous avons des rendez-vous dans un centre pour l'emploi. Au premier rendez-vous, ils nous disent « Revenez dans 2 semaines » et encore « Revenez dans 2 semaines ».
Installée au milieu de la forêt, dans le centre de la Lituanie, à proximité d'une importante caserne militaire, le centre d'intégration de Rukla n'est pas très engageant. Les adolescents qui vont à l'école dans la petite ville sont souvent pris à partie. Les réfugiés doivent y passer 3 mois. À ce jour, seules 6 personnes ont décidé de rester en Lituanie après cette période d'intégration. Ilmaz Kouadiane dirige le centre d'intégration de l'ONG Caritas à Vilnius, l'une des 2 associations qui s'occupent des réfugiés dans le pays. Elle s'occupe d'intégration depuis 14 ans. Les défis ont changé.
Maintenant, nous devons surmonter les différences culturelles. Jusqu'à présent, les réfugiés venaient principalement de Tchétchénie, d'Ukraine, et nous avions la langue russe en commun. Ça facilitait le processus d'intégration. Aujourd'hui, nous devons faire face à des gens qui ne parlent que l'arabe ou leur langue. Beaucoup d'entre eux ne sont pas allés à l'école très longtemps.
Régulièrement, les réfugiés se retrouvent dans le centre de Caritas pour des cours de langue ou pour passer la soirée avec les bénévoles. Le parcours plutôt exemplaire de Mirveis, un Afghan qui a choisi la Lituanie et qui parle de mieux en mieux, est un peu l'arbre qui cache la forêt.
Tout va bien pour moi en Lituanie. J'y habite depuis 2 ans. En ce moment, je suis une formation de coiffeur. J'aurais un peu de difficulté avec la langue au début, je pense, mais avec la pratique, ça ira de mieux en mieux après.
Rugilė, la jeune lituanienne qui s'est occupée de Jenny et de sa famille, reste pessimiste. Les autorités lituaniennes affirment que le pays est dans la moyenne européenne pour l'accueil des réfugiés. De l'hypocrisie selon elle, car le pouvoir ne fait aucun effort pour accélérer le processus. Et il y a bien une raison.
La classe politique n'accorde aucune attention au problème. À mon avis, elle cherche ainsi à entretenir sa cote de popularité. Les gens craignent les réfugiés, ils ne veulent pas leur louer d'appartement. Les a priori sont nombreux. Pourquoi viennent-ils ici? Pourquoi faut-il leur verser des aides? Leur attitude renforce ces stéréotypes. Les politiques ne cherchent qu'à gagner des points.
Les aides accordées aux réfugiés à leur sortie du centre d'intégration sont minimes, 408 euros par mois pour une famille de 3 personnes, et ce pendant 6 mois uniquement. Ensuite, les aides sont divisées par 2. Ilmaz Kouadiane, directrice de l'antenne de Caritas, pour les réfugiés.
La question des aides est toujours une question très sensible, mais plus largement, l'intégration ne passe pas uniquement par ces aides. Nous sommes constamment à la recherche de logements. Les relations entre la société et les réfugiés sont assez tendues. Il leur est très difficile de trouver un appartement à louer. Nous faisons tout pour que l'État prenne en charge ses dépenses de logement.
Pour le sociologue Karolis Gibas, le système d'intégration ne répond pas aux questions essentielles.
On attend des réfugiés qu'ils arrivent à s'intégrer en l'espace de 6 mois, qu'ils trouvent un travail et fassent partie de notre société. C'est irréalisable, d'autant plus que ces réfugiés arrivent dans un pays que les Lituaniens eux-mêmes quittent en masse pour des raisons sociales, économiques, culturelles, voire politiques. Il faut répondre à la question, considérons-nous que les réfugiés sont de passage ou amenés à rester?
L'arrivée d'un nouveau ministre des Affaires sociales à l'automne dernier, longtemps directeur de l'ONG Caritas, promet des changements dans le système. À partir d'avril, un projet pilote d'hébergement dans les villes dès l'arrivée des réfugiés sera mis en place et plusieurs mouvements bénévoles se mettent également en place pour aider ces personnes lors d'actions ponctuelles ou en devenant les mentors des réfugiés souhaitant rester dans le pays.
Deux femmes aujourd'hui aux manettes d'Accent d'Europe, Françoise Grelot et votre serviteur. Vous pouvez nous retrouver sur RFI ou sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale dans quelques instants, journal.
Autour de la question.